Radio Cultura. .eus.
Jan Vormann, street artiste franco-allemand, résident au Chili, a récemment réalisé une œuvre près de UArt Mix, invité par le festival Street Art Point de Vue. Cet artiste est connu à travers le monde pour l'utilisation de pièces de Lego pour combler des monuments d'une façon inattendue. Jan commence par nous raconter son parcours, pour ensuite nous raconter sa découverte du Pays Basque et la surprenante création à côté de la stèle de Gibraltar entre UArt Mix et Saint-Palais.
Le Pays Basque, comme je disais, c'est peut-être j'ai une fausse impression, mais c'est les gens les plus sympas du monde. Bonjour, je suis Jan Vormann, je suis artiste visuel, je travaille beaucoup dans l'espace public et aussi dans l'université. Je donne des cours d'art cinétique. Maintenant, je vis au Chili depuis 5 ans, mais je suis né en Allemagne et je suis franco-allemand. Mon idée de l'art, c'est aussi de travailler d'une manière que parfois, c'est pas trop clair si c'est de l'art ou c'est une folie que quelqu'un a vécu dans sa vie quotidienne, qu'il a fait quelque chose de manière un petit peu bizarre. Et pour moi, c'est un petit peu ça où l'art ouvre des chemins à penser un petit peu différent. Mon parcours a commencé en étant intéressé dans beaucoup de choses différentes, la biologie, la physique. Mais après, je me suis rendu compte que dans l'art, on pouvait combiner un petit peu de tout, surtout dans la manière comme on fait de l'art en Allemagne ou en Europe. Donc voilà, j'ai choisi de m'y mettre un petit peu plus. Et aussi mon oncle, il était un gros fanatique d'art. Quand je l'ai visité à Paris, qui m'a souvent pris à des expositions, ma mère aussi d'ailleurs, mes parents. Et voilà, après l'école, j'ai fait une petite formation d'artisanat, de travailler un petit peu avec des matériaux différents. Et puis de là, j'ai commencé à étudier l'art à Berlin. En fait, je voulais commencer à étudier aux Beaux-Arts à Paris, où je me suis aussi inscrit, mais ils ne m'ont pas pris. Et après, voilà, j'ai commencé à Berlin, où la manière de faire de l'art était très libre. J'étais dans des cours de sculpture, ça s'appelait sculpture, mais c'était très libre en termes qu'il y avait des gens qui dessinaient, des gens qui faisaient des sculptures en bois, des gens qui faisaient des sculptures en béton, d'autres qui faisaient des performances ou des installations. Donc c'était assez libre. On était reparti dans 3 ateliers. Parmi une était un centre commercial abandonné ou genre occupé. C'était mon atelier, celui-ci aussi. Et on était libre en termes de... On pouvait faire ce qu'on voulait. Les profs venaient une fois par semestre. Et après, on devait justifier ce qu'on avait fait et puis ils nous disaient, voilà, si vous n'avez rien fait, vous n'allez pas être pris au sérieux parce que, voilà, il faut le vouloir. Donc, on était très libres entre nous, les étudiants, et on se voyait les œuvres l'un des autres et on parlait beaucoup, on passait beaucoup de temps ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier l'art. Moi, j'ai vécu 14 ans, 15 ans à Berlin et c'est vrai que pendant ce temps-là, ça a beaucoup changé. Donc, quand je commençais à étudier, il y avait beaucoup d'espaces vides parce que, voilà, après la guerre, il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient plus là, qui étaient morts ou qui ont changé de pays, qui ont changé de ville. Donc, quand on a commencé, il y avait vraiment des expositions d'étudiants où dans toute une rue, tous les gens, tous les artistes participants avaient tout un local vide pour eux, pour faire genre comme une galerie. Et c'est un petit peu ça ce qui faisait Berlin qui était si intéressant que, en fait, ouais, il y avait beaucoup d'espace libre et on vivait dans des appartements à 300 euros par mois, par exemple, dans le centre-ville. Et voilà, ça a changé depuis quelques années. Mais au début, c'était vraiment ça, qu'il y avait beaucoup d'espace et beaucoup de liberté. En fait, je suis un petit peu mon instinct. Je trouve que j'apprends tous les jours. Maintenant, je suis père de 2 enfants, qui a beaucoup changé aussi ma vision sur l'art ou sur la vie en général. Donc voilà, je suis encore en formation, je pense que je vais toujours être en formation. Donc, si je voyage pour des projets, chaque pays a toujours une manière différente d'avoir les choses, à différence d'architecture, différence de culture. Donc, il faut toujours ajuster sa manière de travailler pour chaque pays pour que ça fonctionne dans chaque pays. Comme artiste, comme jeune étudiant d'art, on est très connecté avec d'autres écoles d'art dans d'autres pays. On a fait une œuvre qui était en fait un commentaire sur l'architecture dans un petit village en Italie qui voilà, est construit de différentes briques depuis les Romains, et après on a continué à réparer ces maisons avec des matériaux différents. Et nous on était donc invités pour faire une installation. Moi j'ai choisi de réparer un petit peu avec ces briques multicolorées pour faire une petite allusion au graffiti et aussi voilà, au nouveau matériel de construction, le plastique qui définit bien notre jour à jour. Et comme on était très bien connectés, on a voyagé beaucoup, on était n'importe où. Et j'ai toujours pris quelques briques de Lego avec moi. Comme ça, je pouvais élargir un petit peu les lieux où ça se trouvait. J'ai bien documenté. Après, j'ai documenté donc mes voyages de cette manière. Et puis voilà, peu à peu, on m'a invité pour ce projet. Il y avait des donations de Lego qui ont fait que je pouvais donc faire un petit peu plus grand et de plus en plus grand. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est évolué. On a tous des langues différentes, on a tous des repas différents et le style d'architecture et tout ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très similaires. Et moi, avec une formation ou une vie assez multiculturelle, pour moi, c'est toujours intéressant de voir qu'on est vraiment très similaires dans tous les pays. Sauf que voilà, il y a des petites différences, mais par rapport aux choses communes, c'est par exemple les Lego que tout le monde reconnaît dans tout le monde. C'est pour ça aussi que ce projet a eu un succès en se transmettre dans des pays différents, parce qu'il y a vraiment les parents qui reconnaissent les jouets de leurs enfants et même leurs jouets eux-mêmes. C'est la même chose avec les bulles de savon et les pissenlits par exemple, que c'est deux éléments que j'aime bien travailler aussi parce que, ouais, voilà, comme je disais, c'est des choses que tout le monde reconnaît dans tout le monde. J'aime bien aussi que l'art soit un petit peu calme, c'est-à-dire que ça saute pas dans ton visage immédiatement, que quelqu'un vient et dit « Ah ouais, ça c'est de l'art ». En fait, ouais, l'idée c'est que tout le monde puisse prendre, s'il veut, une petite pause de réflexion et voir « Ah ouais, ça c'est un petit peu bizarre » ou « Pourquoi est-ce que cette personne a eu le temps de s'y mettre pendant des heures et des heures pour réparer par exemple ce mur de cette manière qui va après ne va pas rester ni que ça va vraiment changer la structure du mur ou supporter le mur. Ma femme est chilienne et donc mes enfants sont chiliens aussi. J'ai déménagé là il y a 5 ans. Je travaille dans l'université pour donner des cours d'art cinétique qui m'intéressent aussi beaucoup. Donc de l'art avec des moteurs, de l'art avec des senseurs et des Arduino et tout ça. Ça c'est à Valdivia dans le sud du Chili. Et là-bas, la manière de faire de l'art, elle est très différente. Il y a beaucoup de réflexions sur l'identité, d'autres thèmes qui sont beaucoup plus importants qu'ici en Europe. Soi-disant, ici en Europe, on est le grand croisement de chemins depuis très longtemps que les gens viennent ici. On a toute cette culture l'une à côté de l'autre qui sont très différentes. Et, par exemple, le Chilien qui vient en Europe, il va faire toutes les capitales dans un chemin. Par contre, si tu viens à Valdivia, c'est vraiment un petit peu la fin du monde. Il y a sur un côté les montagnes, sur l'autre côté il y a les glaciers et sur l'autre côté il y a la mer. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu la fin du monde. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'autres thèmes qui sont intéressants, genre la nature, les matériaux biologiques et bien sûr l'identité humaine aussi. La technologie, elle a une très grande place là-bas aussi. En fait, c'est un pays très développé. C'est pas du tout un pays de tiers monde, ce qu'on dit de temps en temps depuis ici. Mais une fois qu'on est là, on voit vraiment qu'il y a des entreprises d'intelligence artificielle. Il y a aussi, par rapport au climat et Et la sécurité politique, elle est très haute. C'est-à-dire que voilà, il y a Amazon qui construit ses serveurs là-bas parce que le climat, il est bien pour rafraîchir, par exemple, ce qui n'est pas hyper chouette. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne veulent pas ça. Mais juste pour dire que ce n'est pas comme on imagine le bout du monde. C'est tout à fait humain et civilisé et tout ça. Donc l'art cinétique, voilà. La seule chose, c'est peut-être que si on veut avoir un objet, soi-disant un petit moteur de 5 volts, il faut l'acheter en avance et pour qu'il vienne après 2 semaines. Parce que ça, physiquement, on est vraiment loin. Mais après, ouais, toutes ces réflexions sont, même dans l'art contemporain chilien, on peut bien le voir dans les expositions internationales. On utilise dans notre vie quotidienne le téléphone tout le temps, la télé si on veut, la voiture, toutes ces choses qui sont vachement importantes pour où on est maintenant et même qui détruisent un petit peu aussi la possibilité de se connecter avec l'essentiel et qui en revanche aussi nous permet à connecter un petit peu plus avec l'essentiel. Si on voit la manière de consommation d'art, chez nous, c'est peut-être 90% avec des moyens technologiques parce que voilà, il y a les artistes locaux et puis il y a tout ce qui se passe sur l'internet. Donc, ouais, c'est très important. C'est pour ça que ça m'intéresse. Après, pour moi, soi-disant, la manière de faire l'art, moi, j'ai pas un matériel spécifique. On a parlé des Lego, je dis, ou les briques de construction de plastique. Ce qui pourrait sembler comme si c'était mon matériel préféré, mais en fait, dans l'année, je fais peut-être 2-3 mois ce travail, surtout quand il fait beau en Europe, parce que c'est surtout là où ça fonctionne le plus. J'ai jamais été ici, mais je connaissais bien sûr le Pays Basque aussi un petit peu l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a tant de cultures dans le monde entier que j'étais pas spécifiquement sur le Pays Basque, mais maintenant je connais toute la région, j'ai été très bien accueilli, j'ai même presque l'impression que les Basques sont les gens les plus sympas, ou peut-être c'était juste dans ce moment que j'avais de la chance à rencontrer ces gens-ci, mais en fait ouais, j'ai rencontré une quantité de gens qui étaient trop sympas. Ils m'ont montré toute la région UArtMix, de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Arambels, la petite chapelle en haut. Là, ben, j'ai oublié même beaucoup de noms parce que j'ai vu autant. Après, on est passé à un autre agriculteur qui nous a invités à prendre du champagne et du foie gras. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré plein de gens dans la région dans une semaine. Et les gens étaient hyper sympa. Donc voilà, bravo, bravo les Basques. Ouais, peut-être c'était pas du champagne, c'était du cidre. Alors juste pour être un petit peu plus basque là aussi. On m'a invité pour le festival Point de vue à Bayonne et c'était connecté à une résidence donc à UArtMix. Je suis donc venu en amont, 10 jours en amont, pour travailler à UArtMix. Et puis de là, je suis à Bayonne pour faire un autre projet. Et c'est le projet là, Dispatchwork, avec les briques de construction. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a invité. Ici, on est assis à côté de la stèle de Gibraltar et c'était vraiment l'idée de faire quelque chose ici, sur ce lieu. Mais c'était pas du tout clair ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Mais l'idée vraiment du chemin de Saint-Jacques, c'est de marcher. Alors les premiers jours, les premiers 4 jours, j'ai fait rien que voir les alentours, rien que connaître des gens. On a vu les musées différents, j'ai vu une vingtaine de frontons et puis le musée d'Estel. Et puis après avoir digéré toutes ces informations, voilà, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire ici et après est venue cette idée alors. C'est où se croisent les 3 chemins de France pour aller donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tout le monde sait que pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, bon, la manière la plus vite sera en voiture ou en avion, mais soi-disant à terre, ça sera en voiture. Et l'idée des pèlerins, c'est vraiment de laisser cette technologie et d'aller sur le chemin à pied. C'est pour ça aussi que bon, je vais un petit peu dire ce que j'ai fait, non? Peut-être pour les écouteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est d'avoir construit une autoroute abandonnée. Donc on a cherché pas mal de plaques de goudron d'enrobé. On a reçu aussi des glissières. C'est une autre partie d'autoroute qui part et qui disparaît dans la petite colline ici, à côté de la stèle. Et entre les enrobés, il y a les plantes qui poussent. Et l'idée, c'est que dans 2-3 mois, ça sera encore plus vert et plus abandonné. L'idée, c'est vraiment qu'on abandonne, pour ce chemin, on abandonne la vitesse et on se réjouit d'être long et de marcher à pied. C'est pas une peinture d'une autoroute abandonnée que l'artiste dise que c'est une autoroute abandonnée, il y a quelque chose d'abstrait. Non, non, mais c'est vraiment une partie d'autoroute abandonnée qui est assez calme. C'est-à-dire, vous aussi, vous êtes passé, vous n'avez pas nécessairement vu que c'était peut-être ça l'installation artistique. Et ce qui me plaît, c'est que voilà, les gens qui passent, ils la voient. Mais ils ne sont pas nécessairement clairs que c'est une installation d'art, mais c'est à chacun de comprendre ou de lire un petit peu comme il veut. Donc il y a souvent cette magie des lieux abandonnés, non? Si tu vas dans une maison où la nature elle a repris ses droits, et ici c'est un petit peu la même chose. Si on utilise un chemin, il va être restauré, mais si on n'en a pas besoin, si on n'utilise pas, il va être abandonné. Et c'est de cette manière qu'on puisse lire aussi ce travail. Donc voilà, c'est une partie de notre route qui n'a servi à personne parce que tout le monde marche à pied. On a travaillé pendant cette semaine dans la chaleur. Il y avait des jours où ça faisait trop chaud d'ailleurs. Et en fait, j'étais soutenu physiquement aussi de Monsieur Iturbide, qui est le maire de UARMIX, qui est une machine. C'est pas un humain, c'est une machine qui travaille depuis toujours dans sa vie comme agriculteur. Donc voilà, lui, il m'a montré ce qui était possible et moi, j'ai essayé de lui suivre. Donc on a ramené peut-être 14 mètres carrés d'enrobés qui pèsent entre 10 et 20 kilos, peut-être même 25, je ne sais pas, chaque morceau. Et après les rails de 4 mètres longueur, les glissières. Après on a encore quelques cubes de terre qu'on a dû aussi déplacer. Après le ciment et tout ça, cimenter les piquets. Donc Monsieur Iturbide, sans lui, j'aurais jamais pu faire ça. Après, voilà, il a mis un petit peu le rythme et moi, j'ai suivi pour que ça réussisse dans ce peu de temps. Alors, merci beaucoup, Monsieur Iturbide, si vous entendiez ceci. Comme je travaille dans des pays différents, ça a beaucoup de noms différents. Ça va avoir un nom basque, un nom français, un nom anglais, un nom espagnol. C'est toujours où je vais le montrer en photo. Ici, c'est la chaille. Ça peut être la chaille, peut-être ça. Ouais, je savais qu'il y avait cette langue basque. Après, aussi beaucoup ont parlé de d'où ça venait, qu'on ne savait pas vraiment d'où ça venait, qu'elle était très différente à d'autres langues du coin, que c'était vraiment une langue assez spéciale. Donc, j'ai retenu presque rien. Egunon et Mileshka.
Radio Cultura. Puntu eus.